107.9.
France Inter, oui, France Inter, bonjour à tous. Nous sommes le mercredi 16 février. Anaïs Feuga, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, après deux ans quasiment à l'arrêt, la renaissance aujourd'hui du secteur de la musique avec la reprise des concerts debout. Les restrictions se desserrent partout en Europe. On voit ça, Anaïs, dès le début du journal, après les autres titres.
La France indésirable au Mali doit annoncer sa réorganisation militaire au Sahel. Mini sommet africain ce soir à l'Elysée. Des trains hybrides, diesel et batteries électriques pour circuler sur les lignes non électrifiées. Le premier est présenté aujourd'hui. Et puis indispensable, Kylian Mbappé, il permet au PSG de l'emporter 1-0 face au Real, 8e de finale aller de la Ligue des Champions de football.
Et nos invités ce matin, Léa, 7h50, avec vous.
Faut-il croire à une vraie désescalade dans la crise ukrainienne? Que va-t-il se passer dans les prochains jours? Va-t-on éviter une guerre? Parole au chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, vice-président de la Commission et haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Il sera avec nous à 7h50.
Et on se retrouvera, Léa, à 8h20 pour le grand entretien de la matinale avec donc le président du Rassemblement national, Jordan Bardella. Vos questions dès maintenant, le standard est ouvert. 01 45 24 7000.
France Inter.
Faut-il se réjouir de retrouver le plaisir de manger un sandwich dans un train? Peut-être plus de boire un verre debout au comptoir d'un café ou danser dans un bar musical? Toutes ces choses qui nous étaient interdites. Les discothèques fermées depuis le 10 décembre rouvrent aujourd'hui. Passe vaccinal exigé, mais le masque recommandé n'y sera pas obligatoire selon le protocole du gouvernement. Bref, une bouffée de vie pour le monde de la nuit, pour les musiques actuelles aussi, avec la reprise, Mathieu Culeron, des concerts devant à public debout.
Avec un zénith complet, le groupe Feu Chatterton a repoussé son concert du 10 février au 14 avril pour pouvoir le jouer devant un public debout pour des raisons pratiques mais aussi éthiques. Arthur Théboul et Sébastien Wolf, chanteur et guitariste de Feu Chatterton.
On a préféré reporter pour pouvoir vivre ce moment dans la grande liesse, quoi.
Déjà dans notre catégorie musicale, le rock, c'est vrai que les concerts assis, ça a quand même peu de sens. Ce qu'on essaie de créer dans un concert, c'est une fête. Tu fais pas la fête assis. Donc il y a un moment où ça n'a aucun sens assis, et c'est vrai que du coup, bah, ça détruisait toute une partie du métier de la musique. Là, ça va repartir vénère.
Pour l'ensemble des professionnels du spectacle, la vraie reprise commence aujourd'hui, comme le confirme Malika Seguino, directrice du Prodis, le syndicat du spectacle musical.
C'est une date très importante pour le secteur, car on sera presque après deux ans d'un secteur qui a été complètement arrêté. Et pour nous, c'est la levée de la dernière restriction qui pesait sur les jauges debout. C'est aussi bientôt le retour des artistes internationaux qui ont aussi beaucoup manqué en France, le retour des grandes tournées, des festivals dans un format véritable. Donc oui, il va y avoir beaucoup, beaucoup d'offres. Mais je crois aussi qu'il y a aussi beaucoup d'attentes. Nous ne voulons plus voir refermer nos lieux.
Prochaine étape décisive, la fin du port du masque pour les détenteurs du pass vaccinal, prévu pour le 28 février prochain.
Popcorn autorisé aussi à nouveau dans les cinémas. Là, on ne sait pas si c'est une bonne nouvelle. En tout cas, tous ces assouplissements ne concernent pas que la France, où les hospitalisations baissent légèrement et la circulation du virus ralentit, malgré encore plus de 300 morts hier. Partout en Europe souffle un vent de monde d'avant, Louise Baudet.
Cela fait maintenant deux semaines que les boîtes de nuit ont rouvert au Danemark, en Italie, en Catalogne, en Suède. C'était en fin de semaine dernière. Les clubbers belges vont devoir attendre le week-end prochain, tout comme les Néerlandais. Au pays la plupart des restrictions seront levées le 25 février, passe sanitaire compris. Au Danemark, au Royaume-Uni, en Irlande et en Croatie, il n'est déjà plus nécessaire d'exhiber son QR code à l'entrée des bars et des restaurants. En Suisse, la plupart des cantons sont également sur le point de lever les contrôles. En Allemagne, le gouvernement et les Länder devraient annoncer ce soir la réouverture des clubs le 4 mars et la levée des autres restrictions, contrôles vaccinaux compris, au début du printemps. Fin annoncée des contrôles, mais pas de la vaccination, pas encore. Partout, les autorités sanitaires continuent de promouvoir la troisième dose. Et en Espagne, mais aussi en Suède, la quatrième dose est de mise pour les plus âgés et les plus vulnérables. Toutefois, un pays se projette déjà dans l'après. Le Danemark envisage de stopper sa campagne de vaccination au plus tard ce printemps.
Et tout ce qui change ce mercredi en France est à lire sur franceinter.fr.
Il est 7h05, la question du Sahel, Anaïs, au menu du dîner de l'Elysée.
Le retrait des forces françaises française et européenne du Mali n'est plus un secret. Et à la veille du sommet Europe-Afrique à Bruxelles, Emmanuel Macron invite ce soir une vingtaine de dirigeants africains. Le chef de l'État devrait annoncer sous peu un redéploiement du dispositif militaire au Sahel. Avec 48 soldats français morts au Mali, la fin de Barkhane semble inévitable. Un retrait forcé qui sonne comme un revers pour le président français Franck Madevon.
Non, la France ne quitte pas le Sahel, elle transforme, elle réorganise son dispositif. Voilà le discours de l'Élysée. Le dîner de ce soir avec les chefs d'État africains peut encore faire bouger des lignes, mais pour la France et les Européens, impossible en tout cas de rester au Mali. La junte au pouvoir reporte les élections, fait appel aux mercenaires russes de Wagner et a viré un contingent danois de la force européenne Takuba, c'en est trop.
S'il y a un échec de la France, ce n'est pas tant un échec militaire qu'un échec politique.
Pour le chercheur Marc-André Boisvert de l'Université du Québec à Montréal, la France n'est pas seule responsable de l'insécurité au Mali, mais elle renvoie cette image.
On se retrouve maintenant avec des manifestations anti-françaises, surtout à Bamako. C'est important de souligner que la plupart des gens qui se sont levés pour manifester contre la France sont bien loin des lieux de tension. Donc on voit vraiment, c'est une incapacité de la France d'avoir mené une bonne campagne de communication pour convaincre les gens du bien fondé de leur mission. Et tout ça dans un contexte postcolonial qui est assez complexe.
La France devrait donc retirer ses 2400 hommes du Mali, mais poursuivra la lutte antiterroriste au Sahel. Elle mènera des actions avec d'autres pays, désormais exposés, Côte d'Ivoire, Togo, Bénin. Le Niger pourrait par ailleurs accueillir des soldats européens.
Autre terrain diplomatique, l'Ukraine. C'est indéniablement un signe positif, mais les Occidentaux demandent à voir, au lendemain de l'annonce par Moscou du retrait d'une partie de ses troupes à la frontière ukrainienne. Retrait pas vérifié à ce stade, dit Joe Biden. Olaf Scholz, en mission diplomatique hier à Moscou, a rappelé que l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN n'était pas à l'ordre du jour. Des piétons engloutis dans des rues transformées en rivières, des habitants sur des radeaux de fortune. La ville touristique brésilienne de Petrópolis, au nord de Rio, frappée par des intempéries meurtrières. En moins de 6 heures est tombée plus de pluie que pour tout le mois. Il y a une vingtaine de morts. Retour en France avec une campagne présidentielle tissée de trahisons quotidiennes. Au Rassemblement national, l'eurodéputé et porte-parole Nicolas Bay, suspendu hier soir, il aurait donné des informations confidentielles à Éric Zemmour. Éric Zemmour dont l'ombre plane aussi au-dessus des Républicains. Son terme du grand remplacement utilisé par Valérie Pécresse dans son discours dimanche. Elle dénonce une polémique montée de toutes pièces. Mais dans sa famille politique, on n'a pas forcément apprécié. Et on a Éric Ciotti dans le viseur, Anne Souhaitemont.
L'entourage d'Éric Ciotti a beau avoir immédiatement démenti, la scène racontée par le Canard enchaîné datée de ce matin en fait soupirer plus d'un. D'après le journal satirique, le député aurait lancé en quittant le Zénith qu'il allait falloir se préparer à soutenir Éric Zemmour au second tour. Bidon, répond l'équipe d'Éric Ciotti, qu'il se taise, s'énerve un membre de l'équipe de campagne. Éric Ciotti deviendrait-il gênant pour Valérie Pécresse? Il sème en tout cas le trouble. Sa ligne très droitière, il est l'un des rares à avoir défendu mordicus l'utilisation dimanche par la candidate de l'expression grand remplacement, on agace plus d'un. A-t-on pris une seule voix à Éric Zemmour en allant sur son terrain, son portant député? Ma candidate, c'est Valérie, pas Éric, renchérit un autre. Fort de sa place de finaliste à la primaire, Éric Ciotti a tout fait pour peser sur la ligne de la candidate, trop au goût de certains. Il pèse 40%, mais de quoi? De rien du tout, minimise un ancien ministre, qui voit davantage dans l'électorat Macron une réserve de voix. Valérie Pécresse sera, elle, en fin de semaine, en meeting au Canet, dans les Alpes-Maritimes, département d'Éric Ciotti.
Du côté des parrainages, Nathalie Arthaud pour Lutte ouvrière pourra bien être sur la ligne de départ. Et alors que l'élection se rapproche, qui pour assurer les missions de service public? Le métier de fonctionnaire connaît une grande désaffection. En 25 ans, le nombre de candidats au concours de l'État a été divisé par 4 selon les derniers chiffres du gouvernement. Enfin, sur le front de l'emploi, cette proposition du gouvernement belge, la semaine de 4 jours. Le principe prévoit que les volontaires pourront travailler le même nombre d'heures mais réparties sur 4 jours. Pourquoi pas aussi travailler plus une semaine et un peu moins la suivante? La période Covid nous a forcés à travailler de façon plus flexible, dit le Premier ministre libéral.
Il est 7h09, en finir Anaïs avec les vieux trains roulant au diesel.
Il n'en reste qu'un millier en circulation, mais ils sont très polluants et doivent tous disparaître d'ici à 2035. Alors comme pour les voitures, pourquoi ne pas essayer l'hybride? La SNCF et Alstom présentent ce matin un nouveau TER, un vieux diesel équipé de batteries pour pour stocker l'électricité et le faire rouler en dehors du réseau électrique et qui sera bien utile, Thomas Giraudeau.
Aujourd'hui, 40% des voies ferrées ne sont pas électrifiées, surtout des lignes TER, sur lesquelles la SNCF fait donc circuler des trains au diesel. Sur le prototype présenté aujourd'hui, une partie de ces moteurs polluants est remplacée par des batteries. Elles se rechargent quand le train freine, avant d'être utilisées plus tard.
Tout simplement, au moment où le train quitte la gare.
Jean-Baptiste Emehoud, le président France d'Alstom, qui conçoit ces TER.
Donc au lieu de partir sur un moteur diesel, vous pouvez partir avec une batterie. Donc vous pouvez quitter les agglomérations en mode plus propre. Ça permet aussi d'économiser 20% de l'énergie, de réduire également les nuisances en termes de gaz à effet de serre et puis les nuisances sonores, le bruit.
Et pour les régions responsables des TER, des économies à la clé, car une des autres solutions pour se passer du diesel, ce serait qu'elles électrifient toutes leurs lignes, mais cela coûte plus d'1,5 million d'euros par kilomètre. Christophe Fanichet est le PDG d'SNCF Voyageurs.
C'est plusieurs années avant de pouvoir déployer un fil électrique qu'on appelle caténaire tout le long des voies. Et puis le deuxième point, c'est que ça coûte beaucoup, beaucoup plus cher. Donc la solution, c'est une solution économique et c'est une solution surtout qui, en délai, sera beaucoup plus courte que l'électrification des lignes.
Le TER hybride devrait transporter ses premiers voyageurs à l'été 2023, d'abord dans les quatre régions qui ont financé le projet, Centre-Val de Loire, Grand Est, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie.
Thomas Giraudeau et du train aux fusées, l'Europe spatiale réunie aujourd'hui à Toulouse pour parler de ses ambitions pour l'espace, comme le lancement d'une constellation de satellites de communication pour un réseau Internet propre à l'Europe. Il a fait la démonstration au Real qu'il était bien le joueur que le club espagnol rêve d'accueillir. Kylian Mbappé, auteur du seul but parisien à la dernière seconde de ce huitième de finale aller de la Ligue des Champions, 1-0 pour le PSG hier soir. Et c'est donc encore le tricolore qui débloque la situation, Jean-Pierre Blimaud.
Tel un génie qui sort de sa boîte, le jeune champion du monde a encore prouvé qu'il était capable à lui tout seul de forcer le destin du PSG, même au bout du bout d'un match qui ne semblait pas sourire à des Parisiens pourtant archi-dominateurs et très au-dessus des dernières prestations en championnat. Après quatre occasions nettes, la cinquième a été la bonne au prix d'un exploit personnel face à trois défenseurs du Real, Kylian Mbappé.
Je suis en confiance, je me démarque, après c'est du 1 contre 2. Je rentre dans la surface et dans la surface l'attaquant il est toujours maître et ensuite j'arrive à la placer entre les jambes de Courtois.
Mbappé en sauveur comme un remake d'une scène déjà vue, pas plus tard que vendredi en championnat face à Rennes, là encore pour une victoire 1-0 dans le temps additionnel. Kylian Mbappé, que l'on dit déjà proche et même désireux de partir au Real la saison prochaine, a voulu prouver qu'il était encore avec le maillot parisien solidement accroché sur les épaules.
Moi je suis joueur du Paris Saint-Germain, je suis toujours très content, j'ai dit que j'allais me donner à fond, mais voilà, il fallait le montrer par des actes et je l'ai montré une première fois et il faudra le montrer une deuxième fois au Bernabeu.
Et voilà le PSG plus que jamais dépendant de son prodige, alors que Neymar n'a fait sa rentrée qu'en fin de rencontre et que Léo Messi, encore décevant, a manqué un pénalty arrêté par Thibaut Courtois, le gardien belge du Real, l'autre homme du match hier soir.
Et match retour le 9 mars à Madrid et puis suspense encore entier aux Jeux Olympiques de Pékin dans l'épreuve du slalom. La seconde manche vient de démarrer. Le Français Clément Noël, sixième de la première en embuscade pour une médaille et pourquoi pas l'or. On sera sur place à 7h30 et puis sachez qu'en France, la flamme olympique est trop chère. Deux nouveaux départements se rebiffent. La Haute-Vienne, le Lot-et-Garonne ne feront pas transiter la flamme de Paris 2024 sur leur territoire. Ticket d'entrée à 180 000 euros, jugé exorbitant.
Merci Anaïs Feuga. Le zoom dans 3 minutes sur le modèle des maisons de retraite au Danemark.